Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Pour la première fois, je parlerai un peu de moi, c'est malgré moi, parce que vous m'avez posé la question. Effectivement, ma foi religieuse en est un élément. Le deuxième élément qui dit de mon action, c'est dû à mon éducation que j'ai reçue dans votre pays. Ça compte beaucoup.
À la tête du Niger depuis 10 ans, il a décidé de redonner sa dignité à son peuple. Une ambition qui passe d'abord par une lutte sans concession contre la corruption, mais également par l'autosuffisance alimentaire dans un territoire régulièrement théâtre de très grandes famines. En une décennie, il est parvenu à installer son style austère et droit, menant son pays comme on mène une armée. Mais les caprices des intempéries dans ce pays à 98% musulmans vont-ils lui permettre d'atteindre ses objectifs? Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Séné Kountché. Une sécheresse encore plus rude que celle de 1974 menace les Nigériens. Séné Kountché, qui sait qu'il joue à ce moment-là sa place, va déployer un trésor d'énergie et d'inventivité pour éviter le pire.
L'objectif que nous recherchons, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces populations des moyens leur permettant d'entreprendre une deuxième culture. Et c'est ainsi qu'au Niger, à l'intérieur, c'est-à-dire au centre, à partir des potentialités spécifiques que nous avons eues à faire deux barrages, nous ayant permis de dégager près de 3 à 4 000 hectares d'irrigation.
Une attitude, une mobilisation qui impressionne fortement la communauté internationale.
Mais il ne s'agit pas de faire naître des réflexes de probité, de droiture, si on ne montre pas l'exemple.
Séné Kountché est sur tous les fronts, et avec lui pas de villa de la sécheresse, pas question non plus de mendicité. Il va frapper aux bonnes portes.
Il va de soi que les efforts d'un seul pays ne permettent pas d'arriver, d'obtenir des résultats tels que nous le souhaitons. Si sans doute chaque pays compte sur ses propres efforts, en sensibilisant la population dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire, nous avons senti aussi la nécessité et le besoin de nous regrouper. C'est ainsi que, dans le cadre effectivement de cette institution des pays du Sahel, nous avons eu à mettre en place à Niamey le centre Agrimet pour recueillir un certain nombre de données sur le Sahel. Et c'est ainsi qu'au niveau de Bamako au Mali, nous avons mis l'Institut du Sahel dont la vocation est non seulement la recherche de variétés semencières adaptées, mais aussi la formation du personnel.
Si Séné Kountché ouvre une véritable coopération avec ses voisins, il se tourne également vers ses partenaires occidentaux.
Il ne faudrait pas que l'aide alimentaire prenne le pas sur l'aide au développement. Parce qu'avant tout, combattre la sécheresse, les effets de la sécheresse, c'est donner les moyens aux populations du Sahel de se développer. Par quels moyens arrivons-nous? Chaque pays dispose des mécanismes au plan bilatéral avec tel pays ou tel pays pour bénéficier des moyens du développement. Nous avons l'institution SILS, mais à l'intérieur de ce comité interétat de lutte contre la sécheresse, nous avons aussi notre organisation qui regroupe toutes les bonnes volontés et que nous avons appelées les organisations non gouvernementales, qui souvent, et suivant effectivement leur choix, leur désir, peuvent intervenir ça et là, au-delà des impératifs gouvernementaux.
Le président du Conseil militaire suprême, Séné Kountché, va entreprendre de nombreux voyages pour solliciter le concours des partenaires du Niger afin de venir à bout de la sécheresse. Il va d'abord se rendre aux États-Unis d'Amérique en décembre 1984 pour demander une aide.
Les problèmes économiques n'ont pas été perdus de vue puisque le Niger et l'Afrique tout entière sont frappés de plein fouet par la crise économique qui sévit malheureusement sur tous les continents. Nous sommes d'avis en l'occurrence que les États-Unis ont un rôle primordial à jouer pour sauver la quiétude du monde et plus particulièrement la stabilité des petites nations.
Sénégoudier va ensuite venir en France, à Paris, en 1986 pour rencontrer le président François Mitterrand. Mais s'il se mobilise pour solliciter le secours des grandes nations, il est également opposé à la mendicité. Ce qui explique le respect que lui témoignent les grands dirigeants de ce monde qui voient en lui un homme fier, un homme de principe. Hama Amadou était son directeur de cabinet.
Malgré ses réticences à quémander, compte tenu de sa personnalité, il bénéficiait de la sollicitude de la plupart des grands États.
Au moment où les nations africaines s'alignaient derrière une grande puissance coloniale ou idéologique pour bénéficier de son aide, Sénikounché, lui, refuse de s'inféoder à un seul partenaire. Lorsque la sécheresse sévit dans un pays, il prend son bâton de pèlerin et rencontre des nations partenaires de tous bords. Il obtient l'aide internationale européenne, française et même asiatique, puisqu'il va solliciter le Japon et la Corée du Nord. Daouda Diallo, le chef de sa diplomatie d'alors.
Ce qu'il faut comprendre chez Kounté en matière de relations internationales, c'est le refus de se laisser posséder exclusivement par quelqu'un. Par une puissance, par un pays. C'est cela, Kounté.
Alors qu'il milite au sein du mouvement des non-alignés, Sénikounché va trouver auprès des États-Unis d'Amérique un partenaire de choix.
Sénikounché, ses idées de lutte contre la désertification.
Daouda Diallo, son ministre des Affaires étrangères.
Était très importante pour les Américains qui s'étaient considérablement engagés dans ce secteur en Afrique. Ce qui a favorisé, bien entendu, la coopération entre le Niger et les États-Unis, ce qui n'était pas fait pour déplaire à Sénikounché qui, comme je vous le dis, n'aimait pas du tout que l'on mette le dévolu sur lui. Plus il se sentait les coups des franches, plus il se sentait libre d'agir, plus il était enthousiaste.
Avec Kounché, pas de Mercedes de la sécheresse. La corruption est son cheval de bataille. Inattaquable sur ce point, il a la main lourde pour les corrompus. Son jeune frère, Amadou Kounché, ne va pas échapper à cette rigueur puisqu'il va se retrouver, lui aussi, derrière les barreaux pour une indélicatesse financière. Il rétablit d'ailleurs la peine de mort pour les prévaricateurs. Homme d'État discret, il s'emploie à entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Il ne s'offusquera donc pas de l'expulsion par l'Algérie de quelques 1700 Touaregs nigériens, d'ailleurs mal aimés par ses concitoyens. En mai 1985, le Nigeria expulse plusieurs centaines de ressortissants d'Afrique de l'Ouest vivant sur son sol. Parmi eux, près de 70 000 Nigériens chassés de manière assez brutale. Cette fois-ci, le président Kounché réagit vivement.
Les mesures d'expulsion et dont nos ressortissants ont été victimes. À mon retour de Lagos, je l'ai dit, il s'agit d'une question de souveraineté. Toutefois, ces considérations de souveraineté ne devraient pas faire oublier certaines considérations humaines et de considérations de rapport entre des populations qui ont été divisées d'une manière artificielle du fait colonial et du fait des souverainetés des États. Nous l'avons déploré en son temps et nous avions voulu qu'il y ait des mesures plus clémentes à travers une diplomatie mieux élaborée.
Cette franche réaction ne changera rien à la crise que ce retour massif cause à la fragile économie du Niger. L'administration est débordée. Avec son jeune voisin du Burkina, Sénikounché entretient d'excellentes relations. Daouda Diallo, son ministre des Affaires étrangères.
Kounché avait beaucoup d'estime et d'admiration pour Sankara. Sankara aussi. Figurez-vous que Sankara venait ici en pleine nuit. Il débarquait à Niamey, il venait dans cette même maison, dîner avec Kounté et repartait. Et disait juste qu'il était venu pour manger la pâte de mil.
Son souci constant du point de vue de la politique étrangère reste celui du Tchad. Il est de tous les sommets sur la question. Un peu comme s'il voulait mobiliser la communauté internationale sur ce conflit qui a des incursions dans son pays.
Le président en exercice de l'OIA, le chef de l'État éthiopien, il me semble qu'a convoqué le bureau qui a été constitué lors de ce 19e sommet et a eu même à prévenir les États voisins pour qu'ensemble, et surtout au niveau du bureau de l'OIA, une solution puisse être cherchée de façon à ramener la paix et qui débouchera vers ce qui pourrait être de plus noble, la construction du Tchad. Nous voulons tout simplement que les Tchadiens de dedans ou du dehors se ressaisissent devant le drame auquel est exposé le peuple tchadien pour trouver une solution. Il n'y aura jamais deux ou trois chefs au Tchad, il y en aura toujours un. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a à peu près 14 tendances. Mais je pense qu'en conjuguant les efforts, à l'intérieur comme à l'extérieur, et à partir des instances, qu'il s'agisse de l'OIA ou de l'ONU, je pense qu'on arrivera à trouver une solution pour mettre fin au drame tchadien.
Sédhiou Kouché est de tous les sommets. Il entretient une diplomatie très active et est très écouté de ses pairs. Il joue un rôle de plus en plus important sur la scène africaine, offrant sa médiation dans des conflits. Il va même parvenir à faire élire un Nigérien à la tête de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Daouda Diallo, son ministre des Affaires étrangères d'alors.
Au départ, tout indiquait que le Niger ne pourrait pas faire élire un secrétaire général de l'OUA, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était un régime militaire tout de même, un régime d'exception, qui, d'accord, les droits de l'homme n'avaient pas le droit de citer à cette époque-là autant que maintenant, mais tout de même, au niveau de l'OUA, cela a été pris en considération par des pays qui comptaient dans l'organisation. La deuxième raison, c'est que nous ne reconnaissions pas la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, qui était un membre de l'Organisation de l'Unité africaine et qui était soutenu par conséquent par la majorité des pays qui composaient l'OUA. Malgré ces obstacles apparemment infranchissables, le Niger a fait élire un secrétaire général dans ces conditions-là. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire à y réfléchir avec le recul.
Avec la Libye, les rapports de Sédhiou Kouché sont moins cordiaux. Il tient bon face aux entreprises de déstabilisation suscitées par Tripoli.
Il y a des intentions qui sont marquées ou qui sont déguisées devant conduire effectivement à la mise en exécution d'un certain plan que certains ont appelé la réalisation des États du Sahel ou une république islamique. En hypothèse donc, rien ne prouve qu'après le Tchad, que ce soit le Niger, il se peut aussi que ce soit d'autres pays. Tout est une question de manœuvre en fonction d'une position qu'on occupe et d'un plan qu'on a établi, quelles que soient les circonstances. Si après le Tchad, c'est le tour du Niger, je vous dirai en toute sincérité que le peuple nigérien est déjà prêt à faire face à toute agression ou à tout envahissement. Que cette agression vienne de la Libye, ou bien qu'elles viennent de tout autre pays.
Sédhiou Kouché va résilier d'abord l'accord de défense conclu par son prédécesseur avec la Libye et met fin à la politique d'arabisation de l'éducation.
Qu'il s'agisse de l'intervention d'une puissance en Afghanistan, qu'il s'agisse aussi de la façon dont il y a eu une intervention au Cambodge, le Niger a toujours condamné les interventions lorsqu'elles prennent la forme d'une nouvelle colonisation. Il y a certes des liens entre le Tchad et la Libye. Ces liens ont peut-être donné lieu à prétexte sous une certaine forme d'aide que la Libye s'y trouve au Tchad. Mais nous pensons à partir du moment où une certaine mission semble accomplie ou être accomplie, la présence ne se justifie plus, qu'elle soit sous la forme directe, indirecte, sous la forme physique de militaire ou sous la forme déguisée. C'est là la position du Niger. Qu'elle soit à l'égard de la Libye ou à l'égard de n'importe quel pays qui envahit un autre ou qui l'aide en voulant y demeurer ou y s'installer en pays conquis.
Mai 1985, un commando de Touareg venu de Libye lance un raid infructueux contre la sous-préfecture de Tchintabaraden. Le président Sédhiou Kouché révèle que le colonel Kadhafi a aidé son prédécesseur Diori Amani à fomenter ce coup d'État.
Nous avons eu les meilleures relations avec la Libye et avec son chef, le colonel Kadhafi. Mais à partir du moment où le colonel Kadhafi à penser qu'il faut passer par une partie des populations du Niger, en l'occurrence les Touaregs, pour porter atteinte à notre souveraineté, nous avons dit non. Elles ont décidé tout dernièrement, sous l'instigation de l'autorité de Tripoli, de constituer une plateforme, partant du fait que jusqu'à récemment, la lutte que devraient entreprendre ceux qui étaient partis en 1976 et en 1980 avait une consonance ethnique. Donc il faut faire une plateforme commune. Voici les dernières révélations et les dernières informations en notre possession. Nous prenons toutes les dispositions pour voir s'ils vont passer à l'action ou non.
Après cet incident, l'ex-président Diori Amani est à nouveau assigné à résidence à Niamey au Niger.
L'ancien président Diori n'est pas le seul homme politique qui a marqué le Niger, qui se trouve dans une certaine position. Effectivement, nous avons eu à reprendre il y a un an certaines mesures contre lui en fonction des événements de Tchitbaraden. Il y a des familles qui ont perdu, effectivement, dès lors. L'ancien président avait dit que c'était fabriqué de toutes pièces. De deux, son fils y était bien mêlé. Donc nous n'en voulons pas à l'ancien président. Nous ne voulons pas qu'il paye, effectivement, les actes de son fils. Mais tout de même, nous avons aussi le droit de garantir sa sécurité par rapport à ceux aussi qui ont perdu dès lors.
Moumouni Djermakoy, membre influent du Conseil militaire suprême, collaborateur du président Séni Kountché.
Kountché pensait peut-être qu'une fois libéré, il pouvait se retourner contre lui. Cela, il l'a toujours eu à l'esprit. Même le fils Diori, je crois, aussi, pendant cette période, a été traqué. Partout où il allait, parce qu'il pensait qu'on fomentait un coup contre lui. Et donc c'est une des raisons essentielles. Il était hanté un peu par cette figure de Diori, à juste raison.
Jean Poisson, ancien directeur du cabinet de Séni Kountché.
Il m'a toujours dit qu'il a le plus grand respect pour Diori. Il m'a dit que Diori est un grand président, que j'admire. Mais les circonstances ont fait que je suis obligé de provisoirement de l'éliminer.
Abdallah Wafi, chef des services de renseignement du président Kountché.
Il estimait que, compte tenu de l'aura et du rôle que le président Diori Amani avait joué, des amitiés qu'il avait encore à l'époque, que ce soit avec le président Félix Houphouët-Boigny ou d'autres, qu'il pouvait encore être un objet de crainte politique de sa part. Et je pense que c'est ce qui pouvait peut-être expliquer cette position du président.
Le Niger ne sera jamais le Tchad, avait averti Séni Kountché à une époque où l'armée libyenne faisait la loi à N'Djamena. Pour décourager les appétits du leader libyen, il va maintenir une alliance privilégiée avec la France. Et pour décourager définitivement le colonel libyen, il ouvre une coopération fructueuse avec les Américains, ce qui va permettre de construire une piste d'atterrissage dans l'Aïr à Dirkou, à quelques encablures de la Jamaïria libyenne.
Je dirais tout en affirmant que nos entretiens nous ont permis de confronter notre commun désir de voir la paix et la sécurité prévaloir partout dans le monde, sur la base des grands idéaux du droit des peuples à l'autodétermination, à la liberté, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, du respect des options intérieures et de l'observance des règles de bon voisinage et de coexistence pacifique entre les nations. Bien entendu, les problèmes économiques n'ont pas été perdus de vue puisque le Niger et l'Afrique tout entière sont frappés de plein fouet par la crise économique qui sévit malheureusement sur tous les continents. Nous sommes d'avis en l'occurrence que les États-Unis ont un rôle primordial à jouer pour sauver la quiétude du monde et plus particulièrement la stabilité des petites nations.
Hama Amadou, ancien directeur de cabinet du président Kountché.
Il n'y a jamais eu de réconciliation véritable entre lui et le président Kadhafi.
Le Conseil militaire suprême commence quelque peu à s'essouffler. Si sur le terrain, la distribution des vivres et le projet de société de développement se poursuivent, le président Kountché ressent une certaine lassitude. Il faut changer d'équipe. Une décision pas aisée lorsque l'on sait que les rouages de toute l'administration sont tenus par les militaires. Comment va-t-il procéder? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Séni Kountché. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Militaire que je suis, vous direz, le militaire c'est le dictateur.
On l'a pas dit, hein?
Prouvez-moi le contraire, est-ce qu'on peut faire d'un véritable démocrate quelqu'un qui est mentalement sous-développé, matériellement sous-développé et qui n'arrive même pas à satisfaire ses besoins primaires?
Cette fois-ci, le militaire a décidé, après plus d'une décennie de pouvoir, de civiliser son régime. Il veut faire entrer le Niger dans une ère essentiellement tournée vers l'économie. Il faut dire que le prix de l'uranium, la principale source de revenus du Niger, s'est effondré. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale, c'est Nikounché. Tout en préservant le rôle central de l'armée, le général Sani Kounché vit de son gouvernement des derniers ministres militaires. Un premier ministre civil doit mener la politique de son projet de société de développement. Il s'appelle Hamid Al-Ghabit. Momo Niger Makoy, qui menait jusque-là ce projet, est mis à l'écart.
À un moment donné, il avait pensé que la chose militaire pouvait gérer, comme je vous le disais, la vie politique et économique d'un pays. Il s'est rendu compte que ce n'était pas possible et qu'il fallait civiliser le régime.
Daouda Diallo, le ministre des Affaires étrangères du Niger, à cette période-là.
La société de développement a été conçue pour civiliser le régime. Je souligne le mot civiliser. C'est-à-dire pour que le régime redevienne civil. C'est clair, c'était cela. Donc, il est tout à fait naturel que les civils prennent le devant et que les militaires rejoignent progressivement la caserne. C'était ça la vocation.
En fait, alors que le pays demeure sans constitution ni parti politique depuis la chute de Diori Amani, une institution originale destinée à faire office de parlement élu est en préparation, le Conseil National de Développement. Ses membres, démocratiquement élus, représentent les diverses couches de la population. Ils siègent à l'Assemblée nationale et travaillent à l'écriture d'une charte nationale qui doit être soumise à référendum. Hama Amadou était le directeur de cabinet du président Sani Kounché.
La lutte d'influence au niveau des civils a commencé à partir du moment où un premier ministre, pour la première fois au Niger, avait été nommé. Et pour beaucoup de civils, c'était en quelque sorte le prélude au retrait du président Kounché et la mise en place d'un processus qui allait permettre à un civil de prendre le pouvoir.
La tentative de putsch de Bonkanou a laissé quelques traces. Même si les officiers continuent d'avoir peur du président Sani Kounché, surtout que l'infatigable président qui continue de travailler avec la même passion montre quelques signes de fatigue, ce qui naturellement intensifie les luttes d'influences internes, notamment chez les civils qui à cette date ont le vent en poupe. Dans les milieux militaires aussi, ils sont quelques-uns à affûter leurs armes. L'ambiance qui règne en cette fin d'année 1986 n'est pas des plus rassurantes. Le 21 décembre 1986. Comme c'est la tradition, chaque année à la même date, Sani Kounché reçoit dans la grande salle du palais présidentiel les traditionnels vœux du nouvel an de son gouvernement, réunis au grand complet. Surprise, Daouda Diallo.
C'est là qu'il a eu son premier malaise public. J'ai entendu parler de malaise à Birni Ngaouré, je n'en ai pas la certitude. Mais en fait, pour la première fois, en tout cas à ma présence, qu'il avait un incident public pour ce qui concerne son état de santé, c'était le 31 décembre 1986, où pendant qu'il prononçait son discours, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, et puis il s'est évanoui. On l'a transporté à l'hôpital, et le soir même évacué sur Paris.
Jusqu'à cette date, pratiquement personne au Niger n'était au courant de sa maladie, même ses plus proches collaborateurs. Hama Amadou était son directeur de cabinet.
Je n'ai pris conscience de sa maladie véritablement que le 31 décembre 1986, quand on procédait et à la présentation des vœux au niveau de l'ancien palais. J'étais debout à côté de lui, il lisait son discours devant les membres du gouvernement et à un moment, bon, Nous ne comprenions pas ce qu'il disait. Et par la suite, il a poussé un cri, il allait tomber. Et l'aide de camp qui était à côté est intervenu rapidement pour qu'il ne tombe pas. Et le général Ali Chaibou était arrivé pour qu'on le prenne. C'est véritablement à partir de ce jour que la plupart des Nigériens, y compris nous autres qui étions à ses côtés, avions pris conscience que quelque chose n'allait pas.
Après cet incident, même si le président reprend le travail avec la même ferveur, il apparaît de plus en plus fatigué. Moumou Niger Makoy, un des membres influents du Conseil militaire suprême.
En 83, ceux qui le connaissaient avaient senti qu'il y avait quand même des signes de fatigue. Et je dis encore une fois, c'est peut-être cela qui a fait que ceux qui étaient au courant, qui étaient très proches de lui, avaient peut-être tenté de le renverser.
Les rumeurs sur le mal dont souffre le président enflent, ce qui naturellement aiguise les appétits de nombreux officiers. Hama Amadou, son directeur de cabinet.
Quand il était tombé malade, en réalité, la lutte d'influence s'était déplacée de camp. Ce n'était plus au niveau des civils, c'était au niveau des militaires. Mais aucun ne pouvait ouvertement agir dans le sens de se faire valoir parce que tous craignaient toujours le président Kunti. Malade ou pas malade, c'était un homme qui inspirait une crainte salutaire pour la plupart de ses camarades. J'ai eu personnellement une conversation avec lui à ce sujet. À un moment, les journaux étrangers, Jeune Afrique, insistaient pour dire que le président Kunti était malade, qu'il avait dit « bon, laisse-les parler ». J'ai dit « mais monsieur le président, tous ces écrits commencent quand même à nous inquiéter ». Alors ça m'a donné à réfléchir, je me demande que nous ne le souhaitons pas si quelque chose vous arrivait aujourd'hui, mais dans quelle situation politique le Niger va se retrouver? Il m'a dit « mais il y a le CMS ». Ils sont assez grands garçons pour se débrouiller.
Moumou Niger Makoy.
On se rappelle le général Ali Seibou qui a eu à le remplacer lors d'une conférence des cadres, le premier jour de sa prise de fonction, avait dit au cadre, écoutez, moi on m'a dit de faire un coup d'État, de renverser Kunti, mais j'ai refusé.
Novembre 1987, le président Zélie Kunti s'envole à nouveau pour Paris. Il a rendez-vous avec son médecin, le professeur Gentilini. Encore un rendez-vous. Mais cette fois-ci, il ne reverra pas son pays vivant.
Nigérien, en ma qualité de chef d'état-major général des forces armées nationales, assurant l'intérim du chef de l'État, j'ai le triste devoir de vous annoncer que le chef de l'État, le général de division Sène Kunti, n'est plus. Il s'est éteint cet après-midi à 15h15 à Paris. Un deuil national d'un mois sera observé. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du pays.
Bien que conscient de la maladie du président, le peuple nigérien tout entier est sous le choc. Le calme, la peur et la tristesse règnent à Niamey ce 10 novembre 1987. D'ailleurs, certains Nigériens n'y croient pas dans les premières heures.
Sène Kunti était hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis dimanche, la sixième hospitalisation depuis le début de l'année. Et c'est probablement une tumeur au cerveau qui a emporté le chef de l'État nigérien si jeune, à l'âge de 56 ans.
Le colonel Ali Chebou, qui fait le premier cette annonce à la radio nationale, va, en tant qu'officier le plus haut gradé, prendre la place du président de la République. Ils sont des milliers, les Nigériens, qui vont se masser dans les rues de la capitale pour voir passer la dépouille de leur président et pour enfin croire à la mort de celui qui a régné sur eux pendant plus d'une dizaine d'années.
L'arrivée de la dépouille a donné lieu à une cérémonie extrêmement sobre mais très solennelle, une cérémonie tout à fait conforme au caractère sahélien. Étaient présents, bien sûr, le président par intérim, le colonel Ali Seibou, mais aussi le gouvernement au grand complet, l'ensemble du corps diplomatique et les représentants, c'est important, de la chefferie traditionnelle. La plupart d'entre eux étaient revêtus de blanc, c'est-à-dire de la couleur du deuil. Dans un silence presque total qui a été simplement interrompu par les pleurs de Mintou Kunti, l'épouse du chef de l'État défunt.
La disparition du président Kunti marque en effet la fin d'une ère pour de nombreux Nigériens. Hama Amadou, ancien directeur du cabinet du président Kunti.
En fait, avec la mort du président Kunti, a commencé pour le peuple nigérien la descente aux enfers, parce que il avait su gérer le Niger et répondre assez efficacement aux attentes de la grande masse des populations nigériennes dans des conditions quand même qui étaient très louables pour un pays qui est confronté quotidiennement aux pénuries de toutes sortes. Le Niger, à son époque, était un pays sûr. La sécurité était totale. À son époque, les salaires étaient payés avant terme échu et des investissements qui permettaient de donner une certaine idée du Niger se multiplier dans toutes les régions du Niger.
Un point de vue très diversement apprécié par les Nigériens près de 20 ans après, puisque le président Séni Kouché, du moins son histoire, son règne, suscite toujours des passions dans le landerneau politique nigérien. Son ombre continue de planer sur le débat politique national. Monsieur Cheikh Amadou Oumarou dit Bon Kano, vous étiez pendant longtemps son ami avant de tenter de le renverser en 1983. Ensuite, vous avez dû fuir le Niger. Il vous a d'ailleurs banni du pays. Ce n'est donc que quelques temps après sa mort que vous êtes revenu sur place. Avec le recul, quel bilan dressez-vous de son règne?
Il a fait beaucoup de choses. Il aimait ce pays beaucoup. Et tout ce qu'il aimait d'ailleurs, c'est rien que le pays. Kouinchou ne veut rien. Il ne veut pas l'argent. Il ne s'intéresse pas à une belle maison. Voiture ne parle même pas. Le Niger, là, de n'importe quelle manière qu'il peut faire pour le garder, il allait le faire même s'il avait fait 100 ans. Maintenant, je dis bien, pour l'être humain qui... Le sang coule dans ses veines comme tout le monde, ne peut pas avoir positif partout.
Moumou Nigermako était l'un des principaux membres du Conseil militaire suprême qui a perpétré le coup d'État qui a installé le président Kouché au pouvoir. Il a d'ailleurs été pendant longtemps l'un des plus importants ministres de son gouvernement. Voici le bilan qu'il dresse de l'œuvre de Séni Kouché.
Il avait le sens de l'intérêt général, le sens de l'intérêt de son peuple contre les autres catégories sociales. C'est cela qui fait la différence de Kouché avec beaucoup de chefs d'État que nous avons connus. Dès qu'il s'agit du peuple, il est toujours à côté de lui.
Idrissa Harouna, lui, était un des proches de Kouché. Il était d'ailleurs l'initiateur du putsch du 15 avril 1974 qui va installer Kouché au pouvoir. Cela n'a pas empêché Kouché de l'écarter un peu plus tard du gouvernement pour l'envoyer en Chine comme ambassadeur. Voici le bilan qu'il dresse du règne de Kouché.
Je pense que ce régime a fait énormément pour le Nigeria. Parce que, dès au départ, le régime s'est attelé parce que nous avons trouvé une situation, disons, de disette au Niger. Et le régime s'est attelé pour que l'armée puisse amener les vivres dans les coins les plus reculés du Niger au profit des populations. Ça, c'est un. Des deux, le régime, sur le plan social, s'est attaché à des problèmes. Parce que le régime avait construit en si peu de temps, 1500 classes, rien que simplement par la volonté du peuple nigérien. Le régime s'est attelé à restituer certaines valeurs nigériennes, telles que la lutte traditionnelle, telles que la Samaria. Et le régime a quand même donné une certaine importance aussi à la femme nigérienne.
Sanusi Jakou, lui, a accroupi pendant plusieurs années en prison sous le régime de Kouché pour une tentative de putsch où il dit n'avoir était pour rien. Alors, 30 ans après, voici comment il juge le règne de Séni Kouché.
Kouché était chauvin, il était xénophobe, parce que tous les noms à consonance étrangère dans le sens africain. Kouché, il avait les poils hérissés quand il les entendait. Par exemple, quand il entend quelqu'un qui s'appelle Jawara ou Diop ou Diouf ou quelque chose comme ça, Kouché ne prendra jamais un Diouf ou un Diop dans le gouvernement. Ça, c'est certain. Mais qu'est-ce que Kouché a fait sur le plan des investissements? Des investissements de luxe, ou en tout cas d'utilité douteuse. Par exemple, le palais de congrès de Niamey. Combien il a coûté ce palais de congrès? C'est bien, en la ville de Niamey, d'avoir un palais de congrès. Mais il a coûté combien? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec l'argent qui a servi à faire le palais de congrès? Le palais de congrès, le palais de sport qui porte le nom de Kouché, comment s'appelle, construit par les Chinois, peut-être gratuitement, à 10 ou 11 milliards ou 12. Le complexe CCOG qui a dû coûter les yeux de la tête. L'aéroport de Diffa qui a dû coûter inutilement des milliards et qui est un aéroport qui n'est même pas utilisé. Et puis le Mont Bagazam, un avion, 4 à 5 milliards. Et puis des dépenses de prestige, en quelque sorte. Et malheureusement, je ne connais pas une entreprise industrielle qui a été installée au Niger du temps de Kouché.
Je n'en connais pas.
Jean Poisson était le directeur de cabinet de Séné Kouché.
Il tenait les officiers par l'argent. Quand un officier a un problème chez lui, la femme, un baptême, une mort, Kouché est toujours là pour banquer. C'est une grosse somme d'argent qu'il jette auprès des militaires. Il utilisait l'argent. Il aimait avoir l'argent parce qu'il en prenait même, parce que heureusement, il a eu la chance à l'époque, c'est l'uranium a commencé à rapporter de l'argent au Niger, mais il en prenait des paquets énormes qu'il distribuait.
Le colonel Ali Chebou, qui arrive au pouvoir au Niger en ce mois de novembre 1987, prend aussitôt le contre-pied de son prédécesseur. Il décide de libérer immédiatement tous les prisonniers qui croupissaient dans les prisons du pays. Bien qu'il inaugure son régime sous le signe de la continuité, sa première décision est de libérer le président Diori Amani, qui le remercie chaudement.
J'ai été agréablement surpris par la déclaration devenue historique du 21 novembre de l'année en cours à la conférence des cadres, au cours de laquelle le chef de l'État, dans un grand élan de magnanimité, a manifesté son patriotisme, son élévation de pensée et son amour sans faille de la patrie nigérienne. Par son geste de clémence à l'endroit de tout le monde, nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur les bases très sur les bases saines. Et si aujourd'hui vous me voyez entouré de mes enfants et de mon beau-frère, c'est pour lui apporter la caution de toute ma famille et par-delà ma famille, de tous mes amis, que nous sommes décidés à coopérer dans la construction nationale qu'il entend lancer pour le plus grand bien de l'ensemble de notre peuple. À mon âge, je n'ai aucune ambition politique, mais dans la mesure où mon avis est sollicité, je donnerai volontiers mon point de vue sur certains problèmes de la nation, des problèmes mondiaux. Voilà mon souhait. Ce que je souhaiterais aussi, que le Niger vive en paix, dans la tranquillité, pour amorcer son décollage économique, créer le bonheur de l'ensemble du peuple, l'épanouissement sur le plan culturel, et aussi que son prestige rayonne à travers le monde entier.
En même temps que le président Diori, le nouveau chef de l'État, dans un esprit de réconciliation nationale, libère Djibo Bakary, qui en d'autres temps, dans les années 60-70, avait essayé de renverser le régime du premier président du Niger. Ali Chebou explique ce qui motivait cette décision, qu'il a appelée la décrispation.
Pour décrisper, comme on l'a dit, il fallait vraiment redonner la chance à chacun. Donc sortir de prison, tous ceux qui ont été, pour ce motif, transférés là-bas.
Et pourquoi avoir aussi, dans le même temps, décidé de rendre le pouvoir aux civils comme vous l'avez fait?
Vaut mieux que le militaire reste dans sa robe de militaire et que la politique, il faudrait trouver un processus pour revenir vraiment à une constitution normale et que ceux qui seront élus viennent pour diriger ce pays à la place des porteurs d'uniformes.
Avec le nouveau régime commence en tout cas une autre ère qui ne parvient toujours pas à faire oublier celle de Séné Kouché, qui continue plusieurs décennies après d'alimenter les commentaires dans ce territoire où le soleil rythme plus que partout ailleurs la vie des populations et fragilise l'économie. Un facteur déterminant auquel doit tenir compte tout homme politique qui dirige ce vaste ensemble sahélien. Ainsi se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Séné Kouché. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant simplement et gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne qui compte près de 580 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.